vendredi, le rabbin Jonas sur Koulam Radio.
Rien qu'une larme dans tes yeux. Nostalgie quand tu nous tiens. Impossible pour moi de ne pas me remémorer de ces paroles légères d'un autre temps, fredonnées par Mike Brandt, un chanteur israélien à la carrière aussi foudroyante que sa mort, en lisant son parachute de Veigash. En effet, on y découvre un Yosef, Joseph, le fils favori de Yaakov, cet archange de beauté, d'intelligence, de courage, de piété, fondant en larmes à deux reprises. Pour être honnête, déjà dans la Sidra de la semaine dernière, Miketz, nous voyons également Yosef, toujours lui éclaté en sanglots, deux fois également. Je voudrais partager avec vous, chers auditeurs, une réflexion sur ces quatre moments. En effet, le Talmud le signale et nous met en garde que la femme a plus tendance à pleurer qu'un homme, raison pour laquelle un mari vis-à-vis de son épouse, un enfant vis-à-vis de sa maman, un patron vis-à-vis de son employé féminin notamment, devront redoubler de vigilance afin d'éviter de chagriner leur épouse, leur maman ou leur employé. Néanmoins, il peut arriver, plus rarement, qu'un homme pleure aussi. Et contrairement à l'image dépréciée, dégradée dans la société moderne d'un homme en pleurs, incapable de contenir ses émotions, sa douleur, sa frustration, le Talmud, au contraire, vante l'homme capable de pleurer, au point d'écrire que même si toutes les portes du ciel peuvent être closes, par contre, les portes des larmes sont éternellement ouvertes. Mais à condition de comprendre la force d'une larme, sa valeur, ce que, précisément, Yosef va nous inculquer à travers ces quatre moments où il a pleuré. La première fois où nous voyons Yosef pleurer, c'est au moment où Yosef, alias le vice-roi d'Égypte, a reçu ses 10 frères, poussés par la famine, venus chercher de la nourriture en Égypte. Et les frères ne le reconnaissent pas, et Yosef va les accuser d'être des espions, et que la seule façon de prouver leur innocence sera de ramener leur petit frère Benjamin du pays de Canaan, et que lui, Yosef, en attendant Benjamin, gardera en otage Shimon, l'un des 10 frères, et que devant cette situation inattendue, les frères, pensant que Yosef ne comprenait pas l'hébreu, ont reconnu leur faute à l'égard de Yosef, et que tout ce qui leur arrivait maintenant était dû à ce péché capital à l'endroit de leurs frères. Et c'est alors que Yosef s'est retiré de la pièce pour pleurer en silence sans que ses frères s'en rendent compte. Et la remarque du Maharshal, ce géant polonais du XVIe siècle, est juste magnifique. En entendant de tels aveux de leur culpabilité, Yosef, après 22 années d'exil, seul en Égypte, loin de son père qui l'aimait tant, aurait dû déborder de haine et de ressentiment contre ses frères. Un homme normal, oui, pas Yosef, dont la seule quête, la seule recherche, n'est pas la vengeance, comme dans un vulgaire western, non. Yosef ne rêve que de fraternité, d'unité avec ses frères, et que cette fraternité ne peut être le fruit d'une vengeance ou de représailles. Non, la fraternité se construit uniquement sur une prise de conscience de l'importance de l'autre dans toute sa différence. Et c'est la raison pour laquelle, conclut le Maharshal, Rashi précise bien que Yosef a pleuré parce qu'il a entendu les regrets exprimés par ses frères, ses remords, comme le début d'un rêve qui se réalise et qui provoque chez Yosef un trop-plein d'émotions qu'il ne maîtrise pas, le rêve d'une vie, la fraternité, la vraie. La deuxième fois où Yosef pleure, cette fois-ci, c'est à la vue, après 22 ans de séparation, son petit frère Binyamin, Benjamin, qui sont les deux seuls enfants de notre matriarche Rachel. La Torah va employer à dessein un verbe très particulier pour expliquer les larmes de Yosef, qui nichmeru chamav, littéralement, sa pitié s'est réchauffée, s'est émue, s'est réveillée. Et Rashi va citer le Talmud, qui décrypte le dialogue qui s'est engagé entre Yosef, toujours alors le vice-roi d'Égypte, et Binyamin. Binyamin va raconter au vice-roi d'Égypte qu'il a eu 10 enfants, 10 garçons, et que chacun d'entre eux, il les a nommés en référence à son frère aîné disparu, exprimant à nouveau cette idée majeure, que ce n'est pas la simple vue de Binyamin qui a fait pleurer Yosef, non, c'est peu à peu, Nichmeru, Yosef s'est lentement échauffé, comme ces olives fraîches que l'on laisse mariner dans l'eau pour les attendrir peu à peu. véritable sens de Nichmeru, et que chaque prénom cité par Binyamin était un facteur supplémentaire de l'intense bonheur que Yosef a ressenti, en comprenant que Binyamin, son seul et unique frère par leur mère, non seulement ne l'a jamais trahi, mais surtout jamais oublié, et qu'à chaque moment clé de son existence, Binyamin l'a associé, comme si Yosef était là, à ses côtés, et qu'en entendant le dixième et dernier prénom, Yosef a alors été submergé par l'émotion et s'est mis à pleurer, discrètement, devant ce véritable frère qui était Benjamin. La troisième occurrence où Yosef pleure se situe au début de notre paracha de Vaïgash. La Torah raconte que c'est en pleurs que Yosef, alias le vice-roi d'Égypte, s'est fait connaître, ou plus exactement reconnaître, de ses frères. Sauf que la Torah préfère écrire de manière étrange « Vaiten kolo bifri », littéralement, il a donné sa voix aux pleurs, plutôt que la forme la plus simple « Vaïef », il a pleuré. Peut-être pour nous suggérer l'idée suivante, ici Yosef n'a pas pleuré pour lui, non, il a pleuré pour ses frères, pour leur faute, pour leur échec, leur incapacité à se justifier, à trouver un motif quelconque à leur trahison envers lui. Eux qui pourtant étaient convaincus d'avoir jugé Yosef avec équité, au point d'avoir associé la présence divine à leur jugement, selon le Midrash. Mais voilà que maintenant, devant leurs frères et Yosef, tout s'écroule pour eux, tous leurs arguments s'envolent, ils sont nus, dépouillés, honteux. Et Rabbi Lazar, dans le Talmud, en tire la leçon suivante. Si devant un être de chair et de sang, Yosef, ses frères n'ont pas trouvé de réponse à son accusation, à plus forte raison après 120 ans, chacun d'entre nous se tiendra devant le samedi soit-il, l'Éternel, et nous serons incapables de justifier nos errements dans ce monde. Et c'est ce que veut signifier le verset « Vaïten kolo » dans sa voix, ce fameux kol, synonyme de prière, d'étude, de bonté, le col de son père, Yaakov. Yosef y a mêlé des pleurs, des larmes, mais pour ses frères. La quatrième fois où Yosef a pleuré, c'est en retrouvant son père Yaakov dans notre paracha, après 22 ans. Et ses dernières larmes méritent une vidéo entièrement consacrée à ses retrouvailles, alors que le moment pour moi de conclure est largement arrivé, et de rappeler que les larmes sont le sang de notre âme, et que selon la nature de nos pleurs, on peut mesurer la qualité de notre âme, et que même si pleurer pour une romance inachevée peut avoir un sens pour Mike Brandt, Yosef nous révèle que l'on doit pleurer pour d'autres motifs aussi. Shabbat shalom à vous tous.
Coulam.